peux vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Nous étions à la librairie Utopia pour assister à un échange sur les questions de l'eau. Durant cette émission, vous entendrez quatre acteurs. Quatre acteurs des luttes, en quelque sorte. Nicolas Selnick et Fabien Benoît, qui à travers leur ouvrage Les Assoiffeurs, explorent l'accaparement des ressources en eau par des acteurs privés et les conséquences de cette gestion sur le débit des sources et sur l'environnement. Charlène Descollonges, ingénieur hydrologue, qui a cofondé l'association pour une hydrologie régénérative. Ce débat a été animé par Héloïse Bérard, chargée du programme Vivant et Commun de la Fondation Daniel Mitterrand. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Et du coup, pour introduire un peu cette discussion, donc je reprends des chiffres qui sont tirés de votre livre et qui montrent bien que sur le terrain de la bataille de l'eau, tout s'accélère en fait dans les dernières années. Vous dites, entre 1991 et 2015, il y a 4 fois plus d'épisodes de sécheresse sur le territoire national. Depuis 2015, il y a 30% du territoire français qui est touché chaque année par des restrictions d'eau. Donc on a commencé à voir ces images de villages ravitaillés en camions-citernes, qui étaient des images quand même assez nouvelles dans des pays du centre, comme du centre impérial, comme la France. D'autres chiffres, la durée moyenne des épisodes de sécheresse devrait doubler d'ici à 2050 et 50% des cours d'eau sont en mauvais état écologique en France. Donc là, l'actualité des dernières années a été ponctuée par des scandales autour des eaux en bouteille, de Nestlé, des PFAS, etc. Et je pense que la dernière annonce un peu marquante en date, c'est celle de l'ONU qui a déclaré en janvier la planète en état de faillite hydrique. Et du coup, sur fond de ces chiffres-là, on voit aussi très concrètement dans nos territoires des conflits d'usage qui se multiplient. On a vu des grands conflits autour des méga-bassines, des data centers, des mines, des canaux, etc., avec aussi son lot de répression qui est assez violente. Là, je crois que c'est... hier, c'était le 6e procès de Julien Leguet, donc qui est porte-parole de Bassines en Mercie, qui connaît son 6e procès depuis le début de l'année 2025. Donc d'un côté, il y a tous ces conflits d'usage très concrets et assez violents. Et de l'autre, tout un tas d'annonces, de mesures que fait le gouvernement. Donc on a eu le plan eau, le Varenne de l'eau, les assises de l'eau, etc. Et on a un peu du mal à comprendre, en tant que citoyen, qu'est-ce qui est en train de se jouer en ce moment pour l'avenir de la ressource. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, depuis là où on est, quoi. Alors vous, votre enquête, elle prend naissance en fait dans les grandes mobilisations contre les méga-bassines, et notamment en 2023, avec cette manifestation contre la bassine de Sainte-Soline. Et depuis ce moment-là, le gouvernement il a fait un certain nombre d'annonces et pris un certain nombre de mesures. Donc il y a eu le plan eau en 2023. Après, il y a eu le retour des mouvements agricoles à l'hiver 2024 et 2025. Il y a eu la loi du plomb aussi l'été dernier. Après, on a eu la loi d'orientation agricole. Et en ce moment, débattue à l'Assemblée, il y a la loi d'urgence agricole. Alors, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur cette séquence, nous éclairer sur qu'est-ce qui s'est joué, et notamment comment, en fait, le secteur de l'agro-industrie, qui est l'idée par la FNSEA, le syndicat majoritaire, est en train de reprendre la main et de dicter l'agenda politique, alors que dans la séquence précédente, finalement, c'était plutôt les mobilisations sociales et écologistes qui étaient en train de d'être à l'agenda, finalement.
Tu veux te lancer, Nicolas, ou tu veux
que... Allez, faut bien se lancer. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là avec nous. En effet, il fait chaud, on va essayer de garder la température au plus bas. Ce qu'on voit là, justement, en fait, nous, on a suivi... avec Fabien, on s'est lancé sur cette enquête sur l'eau au moment notamment d'une très forte politisation autour de cette question des usages et du partage de l'eau qui a abouti à cette manifestation, la deuxième manifestation de Sainte-Soline. Et en fait, pendant 3 ans, on a à peu près suivi ce qui se passait sur les évolutions, notamment de la manière dont cet accaparement pour le secteur de l'agro-industrie s'est déroulé. Alors, on fait le distinguo, c'est pas l'agriculture en soi, c'est certains agriculteurs. L'agriculture, c'est le premier poste de consommation d'eau en France, qui consomme à peu près 60% de notre eau, et en particulier pour les surfaces irriguées, qui consomment 92% de cette eau. Et le maïs, là-dedans, qui est la plante qui consomme le plus de cette eau irriguée. Donc, pour ça que la grande bassine de Sainte-Soline, qui devait servir pour l'irrigation de maïs, c'est un peu l'espèce de totem, de symbole de tout ça. Et en fait, ce qu'on voit actuellement du point de vue législatif, tu parlais de la loi d'urgence agricole, c'est la continuation logique de ce qui s'est passé. Nous, ce qu'on a pu voir en fait à venir, c'est la manière dont un petit lobby qui s'appelle Irrigant de France, qui est en fait une branche d'un plus gros lobby qui s'appelle l'AGPM, qui est l'Association Générale des Producteurs de Maïs, qui est une branche d'un beaucoup plus gros lobby qui est la FNSEA, qui est le syndicat agricole majoritaire qui défend l'agriculture conventionnelle, se sont organisés pour favoriser l'irrigation du maïs. Comment ça se passe? En fait, ils ont, pendant toutes ces années, auprès de tous les ministres, etc., fait passer l'idée qu'il fallait faire de l'agriculture ce qu'ils appellent un intérêt général majeur. Et ça, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que, en théorie, quand commence à y avoir des tensions autour de la ressource en eau, en France, on est censé respecter une hiérarchie. C'est d'abord l'eau pour la boisson que nous, on puisse boire pour la santé humaine, puis l'eau pour les milieux, puis l'eau pour les intérêts économiques. Cet intérêt général majeur d'agriculture, ça les remet les deux sur le même plan. Donc autant vous dire que dans la logique actuelle, si on les met sur le même plan, c'est qu'en fait l'économie qui va primer sur les milieux, ce qu'on voit déjà dans un certain nombre de cas. Et cette loi d'urgence agricole, autant la loi du plomb qui a accepté l'intérêt général majeur d'agriculture un peu en sous-main, personne n'avait vu venir, et ça a été voté, c'est inscrit dans la loi. Ça c'était la première pierre, et la loi d'urgence agricole vise un peu à parachever cette avancée de lobbying, notamment en court-circuitant tout ce qui peut ressembler à des formes de concertation autour de l'eau. C'est les articles 5 et 6 qui visent à faire ce qu'on appelle une préfectoralisation, on le reprend d'un universitaire spécialiste de l'eau, qui parle d'une préfectoralisation de la politique de l'eau, dans le sens où toutes ces décisions qui sont initialement concertées à différentes échelles, etc., passe de plus en plus par le préfet, qui est le représentant du gouvernement sur les territoires. Donc, une recentralisation de tout ce qui a touché à comment est-ce qu'on gère l'eau collectivement.
Oui, pour rebondir sur et répondre en partie à ta question aussi, nous, ce qui a motivé l'écriture de ce livre, tu faisais référence à ça, c'est à la fois la violence des répressions de Sainte-Soline contre les militants, contre les gens qui plaidaient pour un partage de la ressource, et les multiples procès de Julien illustrent évidemment très bien ça. Donc la violence de cette répression-là, mais qui n'était pas destinée à défendre juste la bassine, les méga-bassines, quelques méga-bassines, mais en fait un modèle agricole. Et ce qui a aussi motivé la rédaction de cet ouvrage, c'est la réponse politique qui a été apportée. Tu faisais référence au plan eau d'Emmanuel Macron. En fait, on a dans ce plan eau des objectifs de sobriété, mais qui sont une nouvelle fois revus à la baisse. Ils ont diminué au fil des années, on parle de 10%. Ils épargnent l'agriculture qui pourtant consomme près de 60% de l'eau douce en France. Et surtout, ils plaident pour... une forme de solutionnisme technologique, c'est-à-dire apporter une réponse technique à cette question, et ça s'illustre dans le cas des bassines, c'est pas technologique au sens où c'est numérique, connecté, tout ce que vous voulez, quoique on peut mettre des caméras, des capteurs et plein de choses autour, mais c'est quand même une réponse technique pour pérenniser un statu quo qui est l'accaparement de la ressource par certains et aussi la dégradation de cette ressource, parce qu'il ne faut pas oublier de dire que l'agro-industrie, en fait, elle dégrade cette ressource. On en parlait tout à l'heure encore, le nombre de forages destinés à la boisson, à notre alimentation en eau qui ont été fermés dû à des pollutions d'origine agricole. Je crois que c'est plus de 2000 depuis les années 80. C'est la principale source de pollution de l'eau qu'on boit. Donc voilà, c'est ce qui a motivé notre, cet ouvrage. Et pour revenir sur la séquence qu'on est en train de vivre, même si le terme séquence est un peu galvaudé, il y a une reprise en main en fait, du pouvoir sur cette question de l'eau, quoi. Une sorte de reverticalisation de cette question-là. On y viendra peut-être tout à l'heure, il y a une démocratie de l'eau en France, elle est sans doute imparfaite, mais en tout cas elle existe. Depuis les années 60, il y a une gestion par bassin versant, avec un maillage d'organisations, d'institutions qui permettent de prendre des décisions, des fois des décisions qui héritent le pouvoir, comme c'était le cas du sage Villaine, on pourra en parler. Et en fait, ces dernières années, on a vraiment une volonté de reverticaliser ça. Certains parlent de préfectoralisation de la politique de l'eau, c'est-à-dire qu'on donne beaucoup de pouvoir aux préfets, en fait, pour trancher cette question-là, au détriment du niveau local et des décisions qui étaient prises collectivement et démocratiquement pour protéger cette ressource et la partager aussi. Donc ça, je pense que c'est un truc important sans doute à retenir et à avoir en tête, c'est ce mouvement-là, quoi. Et il s'incarne, évidemment, tu l'as dit, par une quantité de choses, faire la liste presque sans fin, en fait, de toutes les attaques qui sont faites sur l'autorité environnementale, sur la police de l'eau, sur toutes les procédures de délibération, de consultation des citoyens. Voilà, il y a un enchaînement, un empilement, d'ailleurs, quand tu le disais, ça faisait vraiment cet effet. Alors, on a telle loi avec plus telle autre. Il y a vraiment cette reverticalisation-là qui est à l'œuvre. Et ce qu'elle dessine, ce que ce processus-là dessine et son objectif, c'est de faire primer l'économie sur les milieux, sur le vivant. Hein. J'ai pas de meilleure façon de le résumer que de dire ça. C'est-à-dire que le moment qu'on est en train de vivre, c'est celui-là. Il se joue au niveau national, il se joue aussi au niveau européen. Il y a un texte assez fondateur, une sorte de clé de voûte, en fait, pour les politiques de l'eau au niveau européen. C'est la directive cadre sur l'eau qui normalement oblige les États membres à préserver la bonne qualité, une bonne quantité des ressources en eau. Cette directive-là, elle est aujourd'hui en phase de révision. Elle est attaquée, en fait, par les lobbies aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui peut s'annoncer très périlleux, dangereux et de très mauvais augure. Donc voilà, c'est ce mouvement-là. Et ce à quoi tu faisais référence en parlant de l'intérêt supérieur majeur de l'agriculture, c'est-à-dire cette idée de remettre l'économie au même niveau que la bonne santé des milieux, du vivant, humain, non humain, c'est ça, c'est tout à fait ça, cette volonté de faire primer l'économique sur... Sur le vivant, pour le dire comme ça.
Alors, je fais juste un petit élément de relance, si vous pouvez répondre assez vite pour que les gens y comprennent bien. Parce que là, donc, vous dites, c'est l'économie qui prime sur le reste. Et est-ce que dans le cas de l'agriculture, des bassines, par exemple, vous pouvez expliquer quelle est... Parce qu'on fait des bassines notamment pour produire du maïs qu'on va exporter. Est-ce que vous pouvez expliquer, en quelques mots, c'est quoi le problème avec le maïs, en fait? Pourquoi ça a à voir avec des enjeux économiques aussi et pas seulement de souveraineté alimentaire, quoi?
En très très bref, ouais. Le maïs, c'est la plante la plus rentable à l'hectare. C'est-à-dire que c'est la plante, si vous la faites, vous avez les meilleures retombées économiques. C'est pas une plante qui est utilisée massivement pour nous nourrir. 2 à 4% des surfaces de culture du maïs, c'est du maïs doux, c'est le maïs qu'on mange. Tout le reste, ou presque, c'est pour le bétail, ou pour des usages industriels, de la colle, etc. Donc le maïs, c'est pas fondamentalement au nom de la souveraineté alimentaire directement. Ce qu'on voit, c'est justement que le lobby principal par la FNSEA, redéfinit ce que c'est la souveraineté alimentaire en disant non, c'est pas la capacité à manger ce qu'on produit, ça c'est ringard, c'est la capacité à choisir à qui on vend nos exportations. Ça c'est la nouvelle définition de la souveraineté alimentaire. Ils ont financé des clips avec des chercheurs en sciences politiques pour nous dire ça. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui repris aussi dans le discours d'Emmanuel Macron qui dit nous on a besoin d'agriculture pour la souveraineté alimentaire, on a besoin d'eau pour l'agriculture, donc on va faire les bassines. Et le parallèle est immédiat. Ah.
Donc on stocke l'eau pour faire du maïs qu'on exporte en fait à différents endroits du monde. Alors Charlène, peut-être pour faire un rebond sur ton travail, toi tu expliques notamment dans ton livre que le stockage de l'eau, il procède de ce que toi t'appelles une maladaptation au changement climatique et surtout en fait d'une mauvaise compréhension de comment les cycles de l'eau y fonctionnent. Et donc l'hydrologie régénérative, elle... Il y a ma grand-mère qui m'appelle.
Elle adorait
Daniel Mitterrand. Et du coup, tu expliques que les principes de base de l'hydrologie régénérative, c'est notamment le fait de ralentir, d'infiltrer et de stocker l'eau dans les sols. Alors, est-ce que tu peux revenir un peu sur ces bases et pourquoi, en fait, la question du ralentissement et du stockage de l'eau dans les sols, c'est si fondamental pour les cycles de l'eau?
en fait, cette question de l'eau. Donc, en fait, comme disait Fabien, on a quand même énormément d'outils, un arsenal d'outils pour prévoir les évolutions hydriques, que ce soit dans ces extrêmes secs et ces extrêmes humides, mais on a vraiment scindé les deux. Et dans la profession, en tant qu'hydrologue, on a un peu deux grandes spécialités, ceux qui vont gérer les inondations, ceux qui vont gérer les sécheresses, et aussi ceux qui vont gérer, on va dire, la qualité de l'eau, etc. Et dans le milieu, d'une manière générale, on est un peu tous ensilotés, et les politiques publiques le sont aussi, et même les services entre eux le sont. J'ai un jour, au détour d'un café, mon ancien boss, président de la structure qui m'employait, me dit « Mais de toute façon, Charlène, le problème, c'est l'eau des sols. » Le sol n'absorbe plus l'eau. Quand elle arrive, elle dévale. Et en fait, ça a fait une sorte de pchit dans ma tête où j'ai revu tous mes cours d'hydrologie qui se sont défilés en 5 minutes. Et je me dis, mais il a raison. Et en fait, il a, sans le savoir, sans le vouloir, précipité ma démission de la fonction publique où du jour au lendemain, je me suis dit, je n'ai rien à faire dans cette structure. Il faut que je sorte, il faut que j'apprenne l'agriculture. Donc je me suis... En maraîchage paysan, j'ai navigué vraiment dans plein de sphères agricoles et j'ai rencontré là Samuel Bonvoisin et Simon Ricard, qui sont deux ingénieurs, dont un agronome, fils de paysan. Et en fait, on a cofondé ensemble l'association pour une hydrologie régénérative pour accompagner le changement de pratique et le changement de perception de la gestion de l'eau, notamment en milieu agricole. Donc le point de départ, il est là. Et en fait... Petit à petit, parce que c'est eux qui ont conceptualisé le principe d'hydrologie régénérative, on a enrichi notre vision à l'échelle du bassin versant en touchant les forêts, les rivières, les milieux urbains. Si je reste focus sur la question agricole, pourquoi ralentir l'eau, l'infiltrer, la stocker dans les sols ? En écrivant ce livre, j'ai été totalement surprise dans la manière dont on traite la question de l'eau de manière abiotique, en considérant abiotique, c'est-à-dire complètement déconnecté des logiques du vivant. En gros, ce qu'appelle Baptiste Morisot, le philosophe, avec Suzanne Husky, la vision fluxiste, c'est-à-dire que l'eau, c'est un fluide qui dévale les pentes, et il faut l'évacuer, le drainer le plus rapidement possible. En faisant quelques recherches historiques, il s'avère que ce sont les ingénieurs des ponts et chaussées qui, à partir des années 1850, ont donné pour ordre à tous les territoires français de produire plus d'alimentation avec deux mots d'ordre, drainer, irriguer, assainir, irriguer. Et c'est toujours les deux faces d'une même pièce. Donc on a, à partir des années 1850, largement assaini, drainé les territoires dans le même mouvement hygiéniste des villes qui ont évacué toutes les eaux usées en dehors des villes plutôt que de récupérer les excréments qu'on va ensuite recirculer dans les ceintures vertes. Donc en fait, il y a eu ce double mouvement-là qui était d'évacuer l'eau et de drainer massivement, ce qui a conduit à assécher les zones humides, les terres agricoles, les forêts pour la culture de bois et les rivières pour le transport fluvial, l'endiguement, la production hydroélectrique et l'extraction de granulats qui sert justement à construire nos routes et nos villes. Et vraiment, en tissant tout ce lien, tout ce maillage, on lit assez facilement ce rapport à l'eau abiotique qui vise à évacuer, drainer rapidement. Donc, on arrivait à une forme d'accélération du cycle de l'eau, globalement, puisqu'on va puiser dans les eaux souterraines très profondes, les remettre en surface, drainer rapidement. Et on en vient à ce constat que partagent les agriculteurs, du fameux bon sens paysan, mais l'eau, elle part trop vite à la mer. Oui, mais est-ce que vous voulez stocker ? Et si oui, comment vous voulez la stocker ? Et en fait, c'est vraiment ça, le retournement qu'on essaye de faire dans ce livre pour une hydrologie régénérative, c'est de le stocker d'abord dans les sols et tout ce qui a été détruit, tout ce qui permettait justement à l'eau d'être ralentie. Et en plongeant dans les chiffres, mais on se rend compte qu'on prend vraiment le sens opposé. On continue à arracher les haies, on continue à retourner des prairies, à drainer des zones humides et à rectifier les cours d'eau. Donc c'est vraiment, on touche vraiment les causes profondes de ces dérèglements systémiques des cycles de l'eau. Donc après, peut-être que je présenterai un peu plus la vision de l'hydrologie régénérative et comment concrètement ça peut se décliner, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui existent déjà, ouais, qui émergent en France, mais qui manquaient un peu de visibilité.
Justement, c'est aussi l'objet de ma deuxième question. En lien avec ce que tu disais, je trouve ça hyper intéressant que tu dises que la démarche aussi, elle est née d'une volonté d'accompagner en fait des agriculteurs et des agricultrices dans la transition. Parce que ce qu'on voit aussi beaucoup en ce moment, dans les discours des cadres de la FNSEA, mais aussi de la coordination rurale, et puis de tout un tas de cadres politiques du centre de la droite et de l'extrême droite, c'est une disqualification, en fait, des arguments des secteurs écologistes qui reposent sur la construction d'une opposition entre, d'un côté, les agriculteurs et les agricultrices qui ont besoin d'eau pour nourrir la France et le monde, et de l'autre côté, les écolos qui sont bien gentils parce qu'ils nous parlent des milieux naturels, mais enfin bon, ils sont quand même un peu à côté de la plaque parce qu'il faut bien produire, nourrir et produire, quoi. Et du coup, comment est-ce que, en pratique, en fait, vous arrivez à mettre en place des propositions, en fait, pour déjouer cette opposition? Notamment dans ton livre, tu parles d'exemples très concrets, comme la ferme du Grand Laval dans la Drôme, où en fait, on voit qu'il y a des paysans, des paysannes qui mettent en place des pratiques de transition vers l'agroécologique, mais qui sont complètement compatibles, en fait, avec la restauration des cycles de l'eau et les principes de l'hydrologie régénérative. Donc, est-ce que tu peux nous donner un peu des exemples pour montrer que la question de la production agricole et de la préservation des cycles de l'eau ne sont pas du tout contradictoires, quoi?
Oui, alors je vais donner quelques exemples, mais avant ça, un peu quelques points d'attention, parce que surtout dans la question agricole, il n'y a pas de solution unique, pas de solution technique qui va pouvoir s'appliquer de manière uniforme à chaque exploitation. C'est du tissage très très fin, de la dentelle qu'on va devoir décliner presque au cas par cas. Et c'est précisément ce que l'on fait à travers nos projets pilotes, c'est de fournir toutes les clés de compréhension. Et ça change tout, parce que quand ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui pensent le chemin de l'eau sur leur parcellaire et qui se mettent ensemble pour avoir une sorte de vision un peu cohérente de l'ensemble, ça bouscule absolument tout. Ça vient même re-questionner la question du remembrement agricole et la division des parcelles. Et en fait, la question, j'y répondrai après, mais c'est que c'était juste pour dire, on a besoin vraiment de travailler avec cette profession agricole, et ce ne sera pas une solution unique pour chaque... Par exemple, on dit dans la question du stockage, le stockage artificiel en particulier, il n'est pas prohibé. Tout comme la question du drainage, il y a des territoires, notamment dans le nord de la France, qui vont être plus humides. Donc ils auront toujours besoin de drainage. Mais la question, c'est comment, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut l'adapter? Et pour ça, en fait, on est en train de créer carrément une nouvelle profession de personnes qui vont pouvoir accompagner la profession agricole. Pour vous donner un exemple très concret... Donc les projets pilotes qu'on a lancés avec l'association, en partenariat avec l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée, en 2023, et qui se terminent là en 2026, mais qui vont se prolonger, on a contacté 5 collectivités qui, elles-mêmes, ont lancé des programmes pour conseiller et accompagner le changement de pratiques agricoles autour des principes d'hydrologie régénérative. Et en fait, il y a de tout. Il y a la viticulture, arboriculture, polyculture élevage, grande culture. On a couvert assez large. Et ils sont tous touchés par les mêmes problématiques. Érosion des sols, sécheresse, inondation, perte de biodiversité et de fertilité. Et en fait, c'est en les mettant ensemble, souvent, en mettant ensemble tous ces agriculteurs qui parfois n'ont pas du tout le même modèle. La ferme du Grand Laval, par exemple, n'a pas du tout le même modèle qu'un producteur de céréales. C'est en les mettant ensemble et en les confrontant sur leurs problématiques communes qu'ils arrivent à proposer d'eux-mêmes des solutions adaptées à chaque enjeu, quoi. Donc il y a eu des ouvrages qui ont été creusés, comme ce qu'on appelle les baissières. Les baissières, ce sont des tranchées végétalisées qui suivent les courbes de niveau. Et ce faisant, l'eau de pluie qui arrive ruisselle, atterrit dans cette baissière et se répartit le long de la baissière. Et derrière chaque baissière, il y a une haie multi-étagée qui permet de produire de l'ombrage, casser le vent, infiltrer l'eau et réhydrater les sols et les sous-sols. Et en fait, tout ça, ça a été déployé très largement et les effets sont quasi immédiats. Ensuite, il y a eu des changements pratiques agroécologiques et agroforestières, mais les effets sont quasi immédiats. Et nous, l'association, on a été là pour poser des capteurs, mesurer, quantifier les effets sur les milieux. Donc on est vraiment encore dans une phase test et pilote, on fait encore nos preuves, si je puis dire. Et ce qui nous a semblé très important, et peut-être qu'on en reparlera après, c'est vraiment d'abord, il y a des réponses techniques, mais l'enjeu, il est surtout humain. Et c'est pour ça qu'on ouvre, on en parlera après, mais tout un chapitre sur le dialogue territorial et la nécessité d'identifier aussi les freins et les leviers cognitifs qui permettent d'entraîner le changement. Et je terminerai là-dessus pour un témoignage, retour d'expérience rapide. On s'est aperçu que les dynamiques qui vont le plus vite, ce sont celles où ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui font leur design, leurs aménagements d'eux-mêmes, qui entraînent les autres, plutôt qu'un message qui provient d'une institution, qui tombe un peu comme ça, en mode « on veut faire l'hydrologie régénérative », dites-nous oui ou non, quoi. Mmh. Et en fait, la démarche est vraiment très très différente. Mmh. Voilà.
Merci beaucoup. Tu voulais réagir
ou... Ouais, je voulais juste dire un petit truc sur le point de départ de ta question, c'est-à-dire l'opposition entre le monde agricole d'un côté et puis les écolos, pour le dire comme ça, qui portent un discours critique. Je trouve que c'est important de rappeler, même si c'est peut-être forme de tautologie, de dire qu'il y a des mondes agricoles. C'est-à-dire qu'on est sans doute aveuglé par le fait que la FNSEA parle fort, que la trajectoire de la FNSEA, c'est celle d'une co-gestion de la question agricole depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc une place très singulière dans la façon dont on gère cette question agricole en France. Mais qu'en fait, quand on discute avec d'autres agriculteurs, agricultrices, paysans, paysannes, notamment au sein de la Confédération paysanne, on n'a pas du tout les mêmes discours et les mêmes solutions qui sont avancées et qu'elles peuvent d'ailleurs se rapprocher de celles que tu avances. Donc c'est aussi important de se rappeler qu'il y a un monde qui est assez multiple et que même si on entend systématiquement la FNSEA, la FNSEA, maintenant la coordination rurale. En plus, voilà, il y a une diversité de pratiques, de profils, d'histoires, et que c'est important de se le rappeler, d'autant qu'en plus, quand on entend des porte-paroles de la FNSEA, on a des gens qui sont des chefs de multinationales. Ouais. Ils parlent, ils défendent ces intérêts-là. C'est-à-dire, le président de la FNSEA, c'est pas quelqu'un qui défend les intérêts des petits paysans et paysannes, quoi. Il est à la tête de je sais pas combien d'entreprises,
d'un groupe agro-industriel.
Voilà, il a une vingtaine de mandats cumulés. Enfin, voilà, il faut juste avoir cette petite, peut-être, nuance. Parce que je pense qu'eux, ils essaient de construire cette opposition vraiment très binaire entre vous êtes des urbains, vous comprenez rien. Nous, on a le savoir paysan et on connaît bien cette question-là, alors qu'il y a plein de choses. Voilà, quand il y a eu des manifestations contre des projets de méga-bassines dans le Puy-de-Dôme, qui devaient être les plus grandes méga-bassines de France, les gens qui militaient, il y avait la Confédération paysanne, des gens qui travaillent sur ce territoire-là, qui font du maraîchage, qui font de l'élevage, qui font plein de choses. Voilà, ils font aussi partie, d'une certaine manière, de la sphère critique de ce modèle-là et des solutions techniques ou technologiques qui sont apportées sur ce sujet-là.
Oui, c'est très juste, et redire aussi que la Confédération paysanne est aussi critique des méga-bassines. Et d'ailleurs, ils distinguent, vous aussi, je crois, l'agriculture et l'agriculture paysanne de l'agro-industrie, quoi, qui sont bien des projets très différents. Du coup, peut-être pour quitter un peu le champ...
Et vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, l'émission L'actualité des luttes, et vous écoutez actuellement un échange autour des questions de l'eau à la librairie Utopia, animé par Héloïse Bérard, avec comme intervenants Nicolas Selnick et Fabien Benoît avec leur livre Les Assoiffeurs, et Charlène Descollonges, ingénieure hydrologue. On se fait une petite pause, à tout de suite.
Pourquoi les policiers ont des trucs sur les bras, les jambes, des casques et bâtons?
À ton avis, c'est pour quoi faire?
C'est pour faire la bagarre.
Une marée bleue devant le cratère, montée d'adrénaline vénère. Dis-moi qui veut la guerre de l'eau, hein? Sûrement ce qu'ont les hélicos, les chars d'assaut. J'ai beau battre des paupières, j'y vois plus rien, merde, c'est l'enfer. Mais ferme les yeux, c'est pire, mes larmes m'aident à y voir clair. De toute façon, j'ai pas besoin de mes yeux, mon corps c'est suffisant pour démanteler calmement le symbole de leur accaparement. Lacrymo crépite, mortier réplique, les quads rappliquent, grenades j'évite. Tout se précipite, je crois que ça y est, je vois la brèche entre les deux fourgons qui flambent. Une projectile, grenade détonne, un casque blanc vole dans les airs. Dernière poussée, je crois que c'est la bonne, mais Serge est étendu par terre. On ne se confisque pas, ne se gaspille pas. Les conditions vitales de l'existence ne se négocient pas. Ils ont la force, on a le nombre, ils ont la peur, on a l'espoir, ils ont les gaz. Mais nous on t'a toi.
Soulève-toi et avance masqué.
S'ils font de nous des ombres,
ce sera pour leur coller au basque.
Soulève-toi
et ils vont craquer.
Sûr que nous aussi, on va passer en force.
Soulève-toi.
Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ont oublié que nous étions des graines tout prêts à essaimer.
Soulève-toi. Méfiance, méfiance.
face à l'eau qui dort, les projets de bassine sont morts.
Plusieurs envahissements d'entreprises, plusieurs destructions de biens, plusieurs appels à l'insurrection. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la terre.
Mais qu'est-ce qui va dissoudre ? Certainement pas mon envie d'en découdre. Apparemment leur stratégie c'est de mettre le feu aux poudres. Ça me donne encore plus envie de jouer des coudes.
Coude à coude.
Dissous, je deviens ce que je défends. Je suis prêt à me liquéfier sur champ pour t'exploser aux dents. On est de la mauvaise graine, du chien dent, de la grosse racine qui fait des croche-pattes pour que partout machine piétine. Et c'est par amour pour le vivant, c'est parce qu'il leur resterait peu de temps que la houtarde enfonce les lignes, que le picma enfonce les clous. C'est pour ceux qu'ils ont de sublime, c'est pour qu'ils rendent coup pour coup. J'ai vu la forêt rasée pour la mettre au garde à vous. Pourtant y'a tant de choses à chérir, à l'affût j'enverrai pas de bouc. Je vais m'interposer physiquement, amour et rage vont de pair. Nous sommes la nature qui se défend, nous sommes les soulèvements de la terre. Sous le couvert de l'anonymat, je vais m'approcher de toi. J'aurai plus de visage, tant pis des taxes ça suffira.
Deviens un spectre,
esprit frappeur à fantôme. Pas de sabotage, non, du désarmement. Et c'est ma rage qui veulent dissoudre, je comprends elle n'a pas de prix. C'est l'espoir qui veulent dissoudre, autant assécher la pluie. Mais ils essayent de nous faire taire, c'est là qu'on fait le plus de bruit. Alors je mets feu au bulldozer, c'est pour éclairer la nuit.
Et avance masqué.
S'ils font de nous des ombres,
ce sera pour leur coller au bas.
Soulève-toi.
Et ils vont craquer.
Sûr que nous aussi, on va passer en force.
Soulève-toi.
Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ont oublié que nous étions des graines tout prêts à essaimer.
Soulève-toi. Confiance, confiance.
Ce qui repousse partout ne peut être dissous.
L'autre jour, on a pris l'autoroute pour y construire un mur. Une manière de dire merci, mais on n'ira pas vers l'extinction, même en voiture électrique. Alors bien sûr, ils vont nous traiter d'éco-terroristes et d'autres trucs chiants, mais je crois que ça y est, on est à un tournant. Il y a tant de zones à défendre, à cultiver, à soigner, à réparer. Alors je sais pas dans quel camp tu veux être.
Mais si tu nous entends plus, inquiète-toi, ce sera le calme avant la fête.
Le titre de votre livre, il est assez évocateur, c'est donc « Les assoiffeurs ». Et en fait, moi, je résumerai votre livre en disant qu'en gros, vous montrez que la sécheresse, c'est pas que les effets du changement climatique. D'abord, c'est avant tout une affaire politique et économique. Vous rappelez bien l'industrie de l'eau en bouteille, par exemple, elle prélève chaque année des milliards de litres d'eau. Une entreprise qui produit des puces dans la région grenobloise comme ST Microélectronique, chose que l'agglomération grenobloise dans son ensemble. Vous dites aussi l'ensemble des data centers dans le monde requiert plus d'eau qu'un pays comme la France. Et bien sûr, sans parler de l'agriculture dont on vient de parler, qui consomme 57% de l'eau consommée en France, donc beaucoup, beaucoup plus que la moitié, quoi. Donc, qu'est-ce que vous dites ? Enfin, est-ce que ça vous parle de dire, en fait, la sécheresse, c'est une construction politique, quoi ? Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation un peu choc ? Et pour y répondre, est-ce que vous pouvez décrire un peu, donc pas sur le secteur agricole parce qu'on vient d'en parler, mais peut-être sur une ou deux autres filières que vous avez étudiées, quelles sont en fait les stratégies de ces assoiffeurs pour contourner systématiquement les différentes instances politiques, juridiques enfin voilà, c'est quoi leur stratégie en fait pour arriver à consommer toute cette eau, quoi.
Vas-y.
Alors, comment répondre à tout ça ? En fait, un truc qui est au centre de notre ouvrage, c'est la question des usages de l'eau. En fait, on a le sentiment qu'on est arrivé à un moment, ou en tout cas, voilà, qui nous impose de questionner les usages de l'eau et l'utilité sociale de ces usages de l'eau. C'est pourquoi questionner, par exemple, le secteur de l'embouteillage d'eau. Pourquoi, en fait, en France, qui est la championne de l'exportation d'eau en bouteille dans le monde, en fait, pourquoi on met de l'eau en bouteille la plupart du temps en exploitant cette ressource gratuitement? Pourquoi on en met dans des bouteilles en plastique et on l'exporte à l'autre bout de l'Europe, voire de la planète? Questionner, en fait, l'utilité sociale de ce genre de secteur-là. Ça, cette remarque, elle vaut aussi pour le secteur du numérique. C'est-à-dire que là, on voit qu'on est dans un mouvement d'hyper-accélération, évidemment, de course de vitesse, sur tous les sujets qui sont liés à l'IA, les data centers, la relocalisation de l'industrie des semi-conducteurs, enfin voilà. Il y a aussi, dans ce secteur-là, l'idée de questionner, en fait, l'utilité sociale de ce développement un peu délégué. Donc la question des usages, elle est au cœur de notre livre et elle était totalement absente dans ce qui a catalysé la rédaction de ce livre-là, c'est la réponse politique qui a apporté à cette question-là. Quoi. Dans le plan, par exemple, d'Emmanuel Macron, il est nullement question de la question du sujet des usages. Quoi. Donc c'est un truc vraiment qui est hyper central, puisque tous ces acteurs qu'on a mentionnés, l'agro-industrie, l'embouteillage d'eau, l'industrie numérique, comprise comme allant de l'extraction de matière en passant par la fabrication de semi-conducteurs, jusqu'aux data centers et aux appareils, à tous ces objets qu'on a dans nos mains. Et enfin, l'industrie des technologies de l'eau, qui, elle, opère une confiscation, un accaparement technique. Toutes ces industries ont en commun d'accaparer l'eau et souvent aussi de la dégrader. Donc, en fait, voilà. Et en fait, notre idée, c'était qu'il faut questionner ces usages. Question qui est assez absente, finalement, en fait, du débat public ou à tout le moins de la réponse politique qui est apportée à cette question.
Et c'est une proposition super provocante de dire qu'il n'y a pas vraiment de sécheresse, mais en fait, ouais.
Enfin, c'est si, bonfage.
Ouais, okay. Carrément. Non, mais enfin, c'est hyper important de poser ça. Nous, ce qu'on essaie de défendre comme idée, c'est que quand, à chaque fois, tu disais tout à l'heure aussi, on parle d'une guerre de l'eau autour de ces différents épisodes de manifestation. L'idée de guerre de l'eau, ça nous amène à penser qu'il y a quelque chose d'assez naturel qui est qu'il y aura moins d'eau, qu'on va tous devoir se battre pour avoir accès à l'eau et que du coup chacune de ces entreprises doit se dépêcher d'avoir accès à la ressource avant les autres. On propose plutôt en fait qu'il y ait une sorte de penser quelque chose comme une guerre qui est menée contre l'eau. Et là, c'est là où je pense qu'on est tous les deux trop contents de pouvoir discuter avec Charlène, parce que je pense qu'il n'y a pas une seule de nos discussions qu'on a fait sur le bouquin sans mentionner le travail de Charlène, qui est vraiment l'idée de dire, mais enfin de ce que tu disais juste avant, en fait, c'est de la finesse, c'est de la dentelle, c'est compliqué comme enjeu. Il faut aller au rythme de l'eau, il faut penser les territoires. Et en fait, ça, c'est beaucoup trop complexe. Enfin, c'est pas trop complexe, mais ça ne rentre pas dans le scope de ce que pensent les aménageurs qui ont besoin de leurs solutions techniques, de leur usine de production d'eau, parce qu'on dit qu'on produit de l'eau, qui est quand même un vocable assez intéressant, et toutes ces solutions, la réhude, la dépollution, etc. En fait, c'est des manières de dire, continuons de tout saccager, etc. C'est pas grave s'il y a des sécheresses, c'est pas grave si on a anthropisé les milieux, parce qu'on va pouvoir produire cette eau. Et donc, on pourra ne pas se poser cette question. On pourra revenir plus tard là-dessus, toute cette production d'eau, ça crée des pollutions, ça demande de l'électricité, etc. Donc ça, c'est très compliqué. Mais cette idée vraiment que... Alors certes, en fait, la répartition des volumes d'eau change énormément au cours de l'année. Il y a plus de précipitations qui vont se condenser, et il va y avoir des plus longues périodes de sécheresse. Donc on va avoir inévitablement des problèmes qui vont se poser. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a des situations de tension autour du partage de l'eau, c'est bien des situations de tension autour du partage de l'eau. Et donc c'est des enjeux politiques, économiques, bien plus qu'une sorte de fatalité à la Mad Max où on dirait tous devoir se foutre sur la gueule.
Mais du coup, est-ce que vous pouvez raconter un peu les stratégies? Parce que vraiment, dans le livre, je vous conseille de lire, c'est vraiment fascinant. Enfin, on voit, ils ont tous leurs stratégies. Donc, les embouteilleurs, par exemple, eux, ils disent « Ah non, mais nous, on fait nous-mêmes nos propres projets de restriction. » Donc, quand il y a un arrêté sécheresse, en gros, ils ne sont pas concernés. C'est eux qui font eux-mêmes leurs arrêtés, quoi. Dans le secteur du numérique, eux, alors, ils ne communiquent pas sur leurs chiffres. Ils mentent sur leurs chiffres. Et ils essayent de faire passer ce truc de projet stratégique qui font que, globalement, ils vont pouvoir passer. Enfin, est-ce que vous pouvez raconter un peu? Parce que c'est assez fascinant en fait de voir comment ils arrivent à sécuriser en fait pour eux en fait ces stratégies là c'est assez bien raconté dans le livre quoi.
Le premier point le plus interpellant c'est qu'en fait ils œuvrent systématiquement à se faire aménager des cadres dérogatoires quoi. Voilà, c'est-à-dire en marge du droit qui pourrait être valable pour tous. Tu parles justement des embouteilleurs d'eau. Alors, il y a des arrêtés sécheresse quand il y a des tensions sur la ressource sur certains territoires. Les industriels de l'eau ont réussi à négocier des plans qui sont séparés, qui les exonèrent en fait de ces arrêtés sécheresse, dont ils définissent eux-mêmes les termes en discutant avec la préfecture et le préfet ou la préfète. C'est des documents auxquels on ne peut pas avoir accès. Donc, on ne sait pas ce qu'ils contiennent. Donc, c'est des plans... quel est l'acronyme
pur,
des plans d'utilisation rationnelle de l'eau, quoi. Donc voilà, ils se créent vraiment un cadre complètement dérogatoire, quoi. Dans le champ du numérique, ils ont réussi à obtenir, en tout cas, ça ne vaut pas que pour le champ du numérique, mais pour plein de grands projets industriels, le statut de projet d'intérêt national majeur qui permet de court-circuiter pas mal d'étapes, en fait, qui concourent au contrôle, à la validation d'un projet industriel, et à donner beaucoup de pouvoir on en parlait tout à l'heure au préfet une nouvelle fois qui peut trancher assez radicalement. Dans l'agriculture, c'est l'intérêt supérieur majeur de l'agriculture. Enfin, on voit qu'il y a un panel de dispositifs comme ça qui sont mis en place pour leur aménager un cadre à côté de la loi. ou en tout cas dérogatoire, inscrit dans le droit, mais en tout cas pas dérogatoire pour le coup. Il y a aussi le fait d'entretenir une forme d'opacité sur les connaissances, quoi, qui est assez évident. C'est-à-dire qu'il y a, il y a de la connaissance qui est produite, parfois elle est cofinancée par les industriels, et les rapports restent dans les tiroirs. C'est le cas en Auvergne, autour de Volvic, il y a eu des rapports qui montraient qu'en fait les prélèvements de l'industriel avaient des impacts sur les sources en aval, et donc sur les milieux qui étaient plus hydratés, puisque ces sources étaient taries, le rapport est resté confidentiel pendant 10 ans. Il y a des batailles comme ça d'expertise qui se jouent. Il faut aussi souligner que dans tout ce processus, l'État est largement complice, en fait. Et qu'en fait, il a aussi laissé les coups des franches à pas mal d'industriels. Il y a des choses qui sont assez, je trouve, symptomatiques. Et, en fait, on tombe des nues quand on découvre ça. C'est-à-dire que, par exemple, dans les Vosges à Vittel, avant 2022, les piézomètres, donc ces capteurs qui permettent de mesurer le niveau des nappes, pour résumer très vite, étaient essentiellement possédés par l'industriel, qui n'avait pas de contrainte de communiquer ces chiffres aux autorités de l'État, quoi. Ça a changé parce que, suite à toute une succession de scandales, mais enfin, on a des territoires qui ont été véritablement laissés à l'abandon, d'une certaine manière, aux industriels, quoi. On a pu discuter avec des hydrologues ou des hydrogéologues qui nous disaient, en fait, vous savez, si vous voulez comprendre la question de l'embouteillage d'eau, en fait, tant que ça marche, tant que ça coule, on continue, et personne s'y intéresse. Dès que ça commence un petit peu à grincer, là, bon, il y a évidemment des problèmes. Donc on a vraiment des territoires qui ont été abandonnés aux industriels. Évidemment, c'est un phénomène qui est renforcé par le pouvoir économique qu'ont ces acteurs-là sur les territoires. Ils peuvent payer des taxes au niveau local, en tout cas des contributions aux mairies qui représentent, voilà, des mannes assez substantielles pour les mairies. C'est le cas à Vittel, c'est le cas à Volvic. Ils sont pourvoyeurs d'emplois. Donc voilà, ils financent le secteur associatif avec des fois des télescopages complètement surréalistes entre des assos financés par les industriels mais qui prennent le pilotage d'un SAGE, par exemple, enfin, voilà, comme on a pu le découvrir à Vittel, où on a des cadres, en fait, de Nestlé qui se retrouvent à piloter la rédaction, la conception du plan qui vise à préserver la ressource. Donc, c'est évidemment très problématique. Donc voilà, il y a tout un... Voilà, c'est ce qui fait d'eux, hein, tout bonnement, des accapareurs, hein, qui déploient toute une gamme, évidemment, de dispositifs pour se faire. Et on voit qu'en fait, je reviens à mon propos introductif, que tout ça est en train de s'intensifier et de s'accélérer, quoi. Que les couches, en fait, se rajoutent les unes aux autres, quoi. Ma petite obsession du moment, je vous le disais tout à l'heure, c'est la révision de la directive cadre européenne. On voit qu'il y a des forces, qu'il y a des lobbies en mouvement, notamment le lobby minier, qui veulent, en fait, tout simplement pouvoir déroger aux règles qui consistent à ne pas abîmer la ressource, à ne pas porter atteinte à sa disponibilité, et qu'on voit que c'est le mouvement qui est à l'œuvre. Ce qui est intéressant aussi, et je m'arrêterai rapidement là, c'est de décrypter, d'essayer de faire voler un peu en éclat leur discours et leur communication autour de ça, parce que Nicolas en parlait tout à l'heure, quand l'agro-industrie parle de souveraineté alimentaire, elle parle de souveraineté ou de droit à exporter librement ce qu'elle produit, et pas du tout du fait de nourrir ou de favoriser une agriculture qui nourrit les Français. Quand on parle de souveraineté technologique, c'est une souveraineté technologique qui est hyper parcellaire. Parce qu'effectivement, on peut ouvrir une mine de lithium dans l'Allier comme c'est le cas aujourd'hui, mais en fait, il nous manque tout le reste des métaux, des terres rares nécessaires à la fabrication de tous les objets qui nous en entourent. Et c'est une mine qui vient se rajouter à d'autres mines. C'est aucunement une mine qui va remplacer la mine du Chili ou d'un autre pays. Donc il faut essayer de faire un peu voler en éclat aussi tout ce discours-là, le discours sur la transition écologique et numérique, hein, qui est très prégnant aussi, comme si l'écologie et le numérique étaient bons amis, ce qui est complètement faux, hein, puisque le numérique incite, on le voit très bien, une croissance à tous les niveaux, hein, de matière, d'énergie et d'eau. Donc c'est aussi voilà, tous ces arguments-là qu'il faut essayer de faire voler en éclat, et ça vaut, en dernier ressort, pour toute cette industrie de la dépollution, réutilisation, désalinisation, qui aussi enrobe ces propositions sous le signe du bon sens, quoi. Évidemment, qui n'aurait pas envie de dépolluer l'eau, qui n'aurait pas envie de réutiliser l'eau. Après, quand
Alors,
on regarde...
C'est justement ma question d'après, que je me permets de la poser. Donc, c'est ma troisième question, avant un dernier moment de plus sur les alternatives et les stratégies, avant qu'on puisse discuter avec la salle. Du coup, sur cette question des technologies, donc vous analysez le plan eau, donc, qui a été annoncé par Emmanuel Macron en 2023, comme un moment qui marque vraiment une réponse centrée sur les solutions technologiques. Donc vous parlez de la réutilisation des eaux usées, du dessalement d'eau de mer, toute la filière de la filtration membranaire, etc. Et du coup, ce plan eau, il a vraiment placé l'essentiel de ses moyens financiers sur ce type de réponse technologique plutôt que dans des plans de sobriété, quoi. Et du coup, tout le dernier chapitre, vous montrez comment, en fait, les pollutions des uns, donc de l'agro-industrie, de la chimie, de l'embouteillage, du numérique, bah, en fait, alimentent le business de ce nouveau champ-là autour de la dépollution. Du coup, est-ce que vous pouvez un peu expliquer, donc vous les appelez les pompiers pyromanes, donc est-ce que vous pouvez un peu expliquer qui ils sont, quels sont leurs discours et leurs objectifs? Parce que c'est vrai qu'a priori, on peut se dire, ah, mais le dessalement d'eau de mer, l'osmose inverse basse pression, là, que met en place le CEDIF, le syndicat des eaux en Ile-de-France, on se dit, a priori, c'est plutôt bien, enfin, on voit pas forcément quel est le problème, donc est-ce que vous pouvez expliquer un peu quel est aussi ce champ-là et ces acteurs?
Eh ben, on va essayer de centrer ça en plus pour un public francilien ou parisien. Ici, on a deux choses qui sont assez intéressantes côte à côte. C'est d'un côté, intramuros, globalement, on a ce qui s'appelle Eau de Paris, qui est une régie publique qui distribue l'eau pour celles et ceux qui habitent à Paris. Et pour une grosse partie de l'Île-de-France, c'est le CEDIF, qui est l'autre, qui est historiquement lié à Veolia. Donc on s'intéresse à Veolia, qui est le grand champion en France des technologies de l'eau. Et en effet, en fait, toutes les ressources, elles sont blindées de pesticides et de polluants en tout genre. Donc, c'est assez contre-intuitif de dire qu'il y a un problème avec le fait de dépolluer toute cette eau. En fait, le problème est très, très simplement explicable en fait que, d'abord, on ne dépollue pas. On concentre les polluants. Et après, on les remet juste 200 mètres après notre usine de pollution pour que les usines suivantes se débrouillent avec de nouveau tous ces PFAS, etc., tous les concentrats. Et ensuite, le fait de dépolluer, c'est extrêmement énergivore. Et ça demande un certain nombre de technologies qui vont elles-mêmes demander un certain nombre de matières premières, etc. Donc ça relance toute une filière industrielle extractiviste très coûteuse. Pour les projets du CEDIF, c'est 1 milliard d'euros pour avoir de l'eau potable au robinet, ce qui est quand même aussi un certain coût. Et ce qu'on a pu observer aussi, c'est que quand on va dans ces grandes usines, donc on va à celle de Méry-sur-Oise, qui s'appelle la cathédrale, c'est un immense truc, on dirait un peu l'étoile noire, il y a des espèces de membranes donc, qui ressemblent à comme des gros tamis de bac à sable, comme c'est des petites turbines comme ça, dans lesquelles l'eau passe en étant tamisée petit à petit pour être le plus petit possible. Et ce truc, ça ronronne, ça fait un bruit énorme, il faut avoir des bouchons d'oreille, parce que ça nous filtre notre eau. Très bien. Qui produit ces membranes? Ah bah, c'est Dow Chemicals. C'est qui Dow Chemicals? Ah bah, c'est les premiers producteurs de PFAS du monde, en fait. Et pourquoi est-ce qu'on a ici ces membranes-là? Ah bah, parce qu'en fait, si on remonte un tout petit peu en amont de cette rivière, il y a une plateforme chimique qui est détenue par qui? Par Dow Chemicals. Enfin, maintenant, c'est DuPont. C'est les mêmes. Mais en fait, c'est les mêmes quoi, qui vendent la solution et le problème, de certaine manière. Dow Chemicals, ils ont leur. Enfin, DuPont, maintenant, a sa propre filiale, DuPont Water Solutions, qui est, vous dotez, enfin, vous imaginez bien, très bien coté en bourse. En même temps, c'est un secteur d'avenir. Le lobby de la dépollution d'eau, il demande 255 milliards pour les 5 prochaines années à la Commission européenne d'investissement. Imaginez-vous le mur d'investissement qu'il faut prendre. Pourquoi est-ce que ça pose problème? C'est parce qu'on peut voir, par exemple, dans la type de solution proposée par Eau de Paris, qui a un bassin versant un tout petit peu différent, les enjeux ne sont pas exactement les mêmes. Eux, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de dire, bon, on est une régie publique, on n'a pas besoin de faire de l'agrandissement, de financer les actionnaires, etc. On va aller voir les agriculteurs, passer des conventions avec eux pour qu'ils passent plutôt en bio, qu'ils réduisent la quantité de pesticides épandus dans nos eaux. Et donc, on va pouvoir se permettre des filtrations un petit peu moins importantes. Ça ne veut pas dire que l'eau donnée par Eau de Paris, c'est simplement un petit peu de filtre à charbon actif et que ça marche tout seul et qu'on a une eau parfaitement clean, etc. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est assez compliqué à naviguer comme idée, mais en fait, on a une eau qui, dans tous les cas, de l'eau des sols, va être saturée en pesticides. Si on veut tout dépolluer, les estimations des chercheurs, chercheuses qui se penchent là-dessus disent on n'a pas assez d'argent sur Terre pour dépolluer l'eau au rythme où on continue de produire des PFAS. Donc ça, déjà, c'est une première indication. Le tout technologique est une impasse de faisabilité, tout simplement. L'autre point à avoir en tête, c'est que 85% à peu près de notre exposition au PFAS ne vient pas de notre eau, elle vient de la nourriture. Donc, qu'est-ce que c'est cette nourriture? C'est les fruits et légumes produits par l'agriculture industrielle, donc les mêmes qui nous polluent notre eau. Donc en fait, si on ne s'attache pas à ce problème en premier lieu, on ne va pas pouvoir, dans tous les cas, s'en sortir. Donc c'est pour ça qu'on a cette idée de pompier pyromane, parce qu'il y a vraiment ce grand cercle qui s'auto-alimente. C'est des intérêts économiques bien compris, enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, une sorte de stratégie du choc, etc. Ce n'est pas des accords de collusion, de regarder, je vais bien polluer pour que vous ayez à dépolluer, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Mais il y a vraiment cette idée de, tant qu'on continue là-dessus et qu'on est en train de faire ces projets, bah, on va se heurter à des murs d'investissement qui sont dans tous les cas infranchissables, sans parler des conséquences extractives pour le reste du milieu.
Mais il y a deux petites choses qu'on peut juste dire pour ajouter très rapidement. C'est, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces industriels nous vendent ces technologies en disant, voilà, c'est pour la bonne santé de tout le monde, il nous faut une eau plus propre et compagnie, on va développer ces technologies. Mais en réalité, leur objectif final, c'est pas du tout de s'en tenir à ça, c'est de développer ces propositions, ces technologies-là, pour l'industrie en particulier. Parce que qui demande une eau extrêmement pure ? Ah tiens, les data centers, les usines de semi-conducteurs, qui ont besoin d'une eau extrêmement pure, et eux-mêmes, quelle technologie utilisent-ils ? Oh, l'osmose inverse basse pression dans leurs usines. Donc en fait, c'est leurs clients. Et tout ça est évidemment anticipé et bien calculé, et c'est des perspectives de marché sont assez faramineuses de ce point de vue-là, quoi. La réutilisation de l'eau, par exemple, qui est un autre mantra d'Emmanuel Macron, et un gros business pour Veolia qui en parle à toutes les sauces. C'est évidemment présenté comme une solution de bon sens, c'est-à-dire pourquoi ne pas réutiliser des eaux grises ? Pourquoi pas ? On manque d'eau, ou alors il y a des tensions sur l'eau. Sauf qu'en fait, l'objectif, c'est de soutenir la demande d'eau de l'agriculture, de l'agro-industrie. C'est pas du tout, on produit pas de l'eau potable dans la plupart des cas. Pour l'instant, on peut le faire peut-être de manière marginale, j'ai vu qu'il y avait un projet pilote en France qui essaie de faire ça. Mais en gros, c'est pour produire une eau industrielle, d'une certaine manière, qui va servir l'agro-industrie. Donc on voit un peu où se situent un peu les vrais gisements de croissance. Et c'est intéressant de, sans doute, de rappeler et de souligner que c'est un vrai Eldorado, en fait, qui s'ouvre pour ces entreprises-là. Qui ont été en partie dépossédés de ce qui était le cœur de leur business, c'est-à-dire la distribution de l'eau aux citoyens, concurrencée voilà, par les régimes municipaux, la remunicipalisation de la distribution de l'eau. Mmh. Voilà, nous, ce qu'on essayait de montrer dans le livre, c'est qu'il y avait vraiment une dimension systémique, en fait. Les méfaits des uns font le business des autres, en gros. Du point de vue de la collectivité, d'un point de vue plus économique, on va dire, c'est complètement perdant à tous les niveaux. C'est-à-dire que le gouvernement français et même l'Union européenne, en fait, met de l'argent public sur des projets industriels, les 150 cathédrales en France industrielles, donc beaucoup d'argent public. C'est le cas à Grenoble dans l'usine ST Micro, c'est quand même 3 milliards d'argent public qui ont été mis sur ce projet-là, dans des projets qui se révèlent être extrêmement polluants, extrêmement accaparants en termes d'eau. À nouveau, ST Micro, c'est un des premiers rejeteurs de PFAS en Isère et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça va engager encore de l'argent public pour dépolluer, en fait, toutes ces pollutions qui sont liées à des projets soutenus à grands frais par l'État français et l'Union européenne. Donc c'est un jeu qui est totalement perdant, quoi, et qui vient en plus, et voilà, je ne veux pas utiliser des grands mots, mais je les utilise quand même, totalement mortifère, en fait, puisqu'en fait, ça confisque l'eau, ça dégrade la ressource, donc en fait, c'est un jeu qui est perdant à tous les niveaux, quoi. Tout ça pour pérenniser, évidemment, des intérêts économiques, ou en tout cas pour les ménager. Donc on en revient au propos initial, hein. On n'est pas, peut-être pas moins dans la subtilité que tout ça, c'est le truc qui est un peu plus frontal, mais voilà, c'est privilégier des intérêts économiques sur la bonne santé des lieux, sur le vivant, et sur ce que moi j'aime bien en parler maintenant, et puis Baptiste Morizon en a beaucoup parlé récemment, sur l'habitabilité du monde, quoi. C'est important, je pense, d'avoir dans un coin de sa tête ce truc-là, c'est-à-dire qu'entre l'économie, entre quelques emplois, et habiter notre monde et continuer à l'habiter en étant en bonne santé, avec des milieux en bonne santé, du vivant en bonne santé, pour moi la question est vite tranchée, quoi. Il n'y a pas...
Voilà, bah écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci vraiment beaucoup à tous les trois pour ces échanges. N'hésitez pas à acheter les livres de Charlène, de Fabien et Nicolas. Et vous pouvez aussi prendre gratuitement les brochures du réseau Hydre sur les formations qu'on fait et le travail qu'on mène. Qui sont là.
Je ne suis qu'une goutte dans l'océan, une goutte de plus parmi vous, une goutte de pluie ou une larme de plus sur les joues de notre planète Terre. Mère, pardonne-nous, l'homme a créé ce tourbillon qui nous a tous rendus fous. Folie générale, même les climats ne tiennent plus le coup, nos vies ternissent par notre faute, on en a même perdu le goût. J'ai peur du coup, pourtant j'ai bien vu la lueur du gouffre, du moins je l'ai aperçu en éclairant un peu mon cœur du fou. Oui, que le soleil, la lune, les arbres, les mers nous pardonnent, toutes les espèces vivantes que la mienne a exterminées. Je demande pardon parce que tout le mal qu'on a créé, faudra de la force pour réparer. Et que j'ai du mal à voir que ce monde est prêt, l'immonde est près de nous. Mais j'ai la foi que ça change, ça paraît fou. Une goutte de plus, peut-être une goutte qui dérange, une goutte noyée dans un océan qui se déchaîne et tente de nous broyer. Voyez, on a pourtant pas de haine dans les gènes, tant pis, on part de là. Mais on peut aller loin, l'enfant, chacun le sait. Même si on fait comme si tout allait bien, que la rage demeure, fait naître tant de violence dans nos cœurs. Trop de conflits en pagaille, aux ondes qui s'installent dans nos peurs. Venez pas faire un tour dans nos esprits en bordel. Mélancolie, une goutte de plus et le poison devient mortel. Simple reflet d'un monde particulièrement en bordel. Juste une goutte de plus pour que déborde le vase ou le cocktail. Parce qu'il suffit d'une goutte de plus parfois pour que tout change. Rééquilibrer, faire basculer, pas besoin de beaucoup de chance. Juste du goutte à goutte avant que le sablier ne se vide. Limpidement, le temps s'écoule et la raison ordonne de fuir vite. Le cœur dit de se battre. Et même si c'est trop tard, dignement, allons-y pour le geste et pour que nos idéaux partent, rejoindre le ciel. Qu'on en reçoive les pluies, juste une goutte pour chacun. Une goutte qui suffirait à remplir chaque cœur. Même si le temps écrit tristesse, on aperçoit la lumière au loin, l'impératrice mélange en calme et ivresse qui goutte à goutte nourrit lorsqu'on s'en approche. Loin de cette maudite flaque, reflet d'une époque atroce. Une lumière qui semble être la source, qui se déverse dans les cœurs pleins d'espoir et qui fait fondre la frousse. Que la vie nous donne le courage de ne plus voiler la face. Une goutte de crainte, de compassion, juste une goutte qui soulage. Je ne suis qu'une goutte de plus noyée dans l'océan. Qui sait qu'à nous tous on pourrait faire plein de vagues. Et tout éclaboussé, poussé par un vent de sagesse émanant du ciel. Un peu plus de foi, la mienne, elle m'a rendu sienne. Que chaque maillon se ressoude et reconstitue la chaîne. Et si ce monde veut notre peau, gardons l'esprit et la chair. On y arrivera, même si s'il mal est bien portant. Parce qu'on est tous une goutte de plus et que chaque goutte est importante. Importante, chaque pensée, chaque mot, juste une goutte de plus. Chaque geste, chaque action, une goutte de plus. Chaque personne, tous les maillons d'une longue chaîne, et qu'on peut tout changer le monde à son échelle. Michel.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.